Bon, 39,9, c'est juste une question de température.
Hello, hello.
Salut, salut.
Salut, salut.
Non, ça sert à rien de faire comme ça avec la main.
Ah, bonjour.
Et ça sert.
Et donc, le 15 avril, ça passe, ça passe.
Ça va passer.
Et on va commencer avec une petite musique, un petit peu de Brigitte Fontaine, Le Brin d'herbe.
Ça faisait longtemps.
Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe oublié sur la voie ferrée. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe ressuscité au milieu des pavés. Toi, tu l'arraches avec tes bulldozers, roi de l'or, esclave de l'or. Toi, tu l'enterres avec tes quatre hivers, fils de la mort et père de la mort. Moi, je te hais depuis le fond des âges, mais quand même dans mon désespoir. Je t'aimerais toujours bien davantage que toi tu n'aimes sous ton parasol noir. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe oublié.
Déplier le pitoyable plaid, dégonder les putains de portes, disperser les congères, faites souffler les soufflets sur les belles braises, emplissez de pleines louches, laver les léviathans. Les monts rugissants réclament la pâte pâle des potes palos. Dissipez la mélancolie de l'Est, effacez le maudit climat, rapetissez les pieds gelés, les doigts gelés, la face gelée, les engelures des enfants de la chance, caste des éclopés. Trajet habituel du pote élu, amateur de chemins tortueux, testeur de tripes tentants, alcoolo, titillé, attroupé au milieu des détritus triomphants. Périple en poids lourd à travers des trous perdus, tout petit aux tétons déchirés qui tombent sous les tentatives de torture des truands terribles, qui supputent le total de leur prise, les tentatives des tribulations, les tièdes apothéoses, la terrible absurdité, la tendance au terrible tremblement, tic-tour, tourment, 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 fiante des fauchés refilant des reliquats d'excréments ridés dans des fions profonds, de poupées engagées dans un monologue enragé, ma boule moderne, se moquant de la monnaie, milady, me malmène. C'était le début d'une lettre à Jack Kerouac du 8 janvier 1951. Et la suite fait ça. Pois, bois, bark, beu, prout, berg, loups, arg, chatte, crotte. J'ai perdu 19 minutes 3 quarts sur le paragraphe ci-dessus, sans aucune raison valable. Qu'est-ce qui me prend ? Je dois m'en tenir au simple fait et à ce que je veux dire. J'ai réfléchi à tout ça. Surtout, ne fais pas attention à cette nullité. C'est juste que j'arrive pas à commencer en m'efforçant de dire clairement ce qui doit l'être, même si j'ai cogité nuit et jour sur la façon de nous simplifier les choses. Je suis prêt pour une divagation décousue dont le bavardage ininterrompu semblera paradoxal. Les détails me font vraiment rêver et j'ai tout mis à plat, donc ne crois pas que je te baratine. Écoute, illico, illico, pas demain mais tout de suite. T'entends, sale branleur de pecno, tu te trouves un boulot, tu m'entends ? Espèce de flemmard, cossard, tire au flanc, vermine, bon à rien. Durant 3 malheureuses semaines, tu vas devoir supporter un boulot écœurant, 8 heures d'affilée, non encore mieux, 2 boulots. Oui voilà, tu feras la plonge ou tu balayeras toute la nuit et tu secoueras des sodas toute la journée, 16 heures par jour, et pendant ton temps libre tu prendras un job à temps partiel pour distribuer des journaux tous les matins de bonne heure. Choisis les boulots les plus durs et fais pénitence, espèce de vieux schnock, rampe dans la merde de l'horreur quotidienne pour quelques billets à la con. Ça me rend malade, je frémis à cette idée. Comment peut-on demander à quelqu'un de faire ça? Oh, allez, vois comment faire au mieux, mais fais-le d'ici mon anniversaire. Février, c'est le mois de l'améthyste pour la sincérité, de la violette pour la modestie. Création des Boy Scouts en 1910, naissance de Cassady en 1926. Le 8, d'ici au 8 février au plus tard, tu dois avoir au minimum $150 en poche. Je repousse exprès mon départ pour New York jusqu'à la dernière minute pour te laisser le temps de trouver le fric nécessaire. Il n'y a pas de travail au chemin de fer dans le sud. Et coup de chance, j'ai dégoté une bonne place d'aiguilleur à Auckland. Dans ce boulot, en général, on bosse de minuit à 8h du matin. Et l'avantage, c'est que ça durera sans doute jusqu'au printemps, quand je retournerai à la Southern Pacific. En tout cas, je suis fauché et je dois travailler jusqu'à la fin du mois pour me faire 100 billets, pour en donner à Diana, pour financer le voyage. Je peux obtenir un congé et revenir travailler à la minute même où je rentrerai à la maison. Donc, 1er février, je quitte San Francisco, à bord d'un train de marchandises, le Zipper de 19h40. Le 2, j'arrive à LA à 6h50 du matin. Je vais à Inglewood et à Compton voir mes sœurs, ma tante, mes frères, mes cousins, ma nièce, mon neveu. Je quitte LA à 23h59. Le 3, je traverse l'Arizona. Le 4, El Paso et le Texas. Le 5, la Nouvelle-Orléans. Le 6, Montgomery, Alabama et Atlanta, Géorgie. Le 7, Washington District et New York City. Le 8, je fête mon anniversaire en débarquant chez vous, les enfants. Le 9, je passe toute la journée avec vous deux et avec quelques experts pour dénicher une camionnette potable et la faire immatriculer le jour même. Et à la tombée de la nuit, on commence à charger ton barda. Le 10, on range les derniers trucs et le soir, on se tape un dernier délire. Fiesta pour tout le monde. Le 11, on quitte New York City. Viré à travers la Pennsylvanie. Le 12, l'Ohio, l'Indiana, l'Illinois. Le 13, le Missouri, Kansas City. Une bonne petite bouffée chez mon frère. Tu suis. Le 14, on arrive à Denver, on voit Ed White. Le 15, mon vieux, sort de prison. Je l'interroge sur les détails concernant ma petite enfance. S'il est libre, il viendra peut-être à San Francisco. Le 16, on quitte Denver, on va à Salt Lake City, où je suis né. Le 17, le Nevada et la Californie. Le 18, je m'inscris sur le planning de chemin de fer. On arrive chez moi le 19 et vous emménagez à côté de la maison. Ça donne envie, hein, mais en fait, il faut que vous restiez chez vous, parce qu'on est confinés. Donc voilà, en 10 jours, il faisait... Il imaginait en tout cas Neil Cassady, un des, on va dire, la muse de Kerouac, pour écrire son livre qui s'appelait Sur la route, complètement frénétique, qui écrivait des lettres comme ça à la benzédrine où il ne s'arrête jamais. Et on a l'impression qu'il hurle sur sa machine à écrire. En fait, je pourrais continuer longtemps, mais je ne suis pas sûr qu'on comprenne grand-chose. Mais en le lisant, je me suis dit que... ça faisait plaisir de voir des gens qui imaginaient qu'ils pouvaient sortir de chez eux à moins d'un kilomètre pendant plus d'une heure et faire tous les États-Unis pendant 10 jours. Voilà.
Moi j'ai l'impression, j'ai aimé t'écouter et s'il y en a d'autres dans l'heure et demie qui suit, je trouve ça pas mal.
Ah bon, on peut lire la suite de la lettre alors, après, ça marche.
Bravo pour le rythme.
On écoute les Melvins et c'est Honey Bucket.
I'm completely finished with you. I've had it with you and your fucking stupid radio shows. It's really fucking boring.
La radio qu'on n'a pas envie d'éclater.
Bonjour. Alors, à la suite, on va vous lire les débuts d'un exposé que notre ami Quetch nous a envoyé et que d'ailleurs vous allez pouvoir trouver sur notre blog bientôt. Les blogs où aussi on peut trouver les émissions en podcast et les blogs, et c'est 399fm.noblogs.org. Voilà. Et l'exposé s'appelle COVID-19 et gestion des frontières européennes. Alors, je commence. Les sujets et les zones géographiques sur lesquels porter notre attention sont infinis. Et les tiraillements entre l'urgence avec laquelle traiter certains de ces sujets et les reculs nécessaires pour déceler les cynismes qui ressortiraient de ces analyses se fait souvent sentir. Ces phénomène inconfrontable de tiraillement est sûrement exacerbé dans cette période de crise commune à la plupart des parties du monde. Dans ces récits, il sera trop peu question d'analyse, tandis qu'il sera tenté, tant bien que mal, de ne pas reproduire les matraquages infernales d'informations comme s'il s'agissait de faits divers plus scandaleux les uns que les autres.
L'idée de cette rubrique était de transmettre des infos de ce qu'il se passe aux frontières de l'Europe et sur la route pour l'atteindre. Par ces temps de fermeture plus stricte encore qu'auparavant, la crise sanitaire internationale, il est souvent difficile de chercher, trouver, comprendre et diffuser des infos d'un instant proche et considérer le contexte plus ou moins éloigné dans le temps et l'espace de ce que l'on parle. Ce dont on parle. Quand on pense aux routes migratoires pour rejoindre l'Europe, il n'est parfois pas évident de porter son regard de l'autre côté de la Méditerranée, en Libye, au Maroc, en Turquie, en Tunisie, en Algérie, qui sont les principaux pays côtiers de départ. N'oublions pas que les routes commencent plus au sud encore, que la traversée du Sahara fait très souvent partie du trajet et est aussi meurtrière que celle de la Méditerranée. Il y aura trop peu d'infos dans ce texte sur le bord sud de la Méditerranée. Ce qui va suivre est loin d'être exhaustif, devra être réactualisé et va omettre un bon nombre de récits et de zones frontalières. Il sera question surtout de certains aspects de la situation en mer Méditerranée et aux portes de l'Europe pendant ce mois passé, et de la manière dont se forme une radicalisation plus forte encore quand la fermeture des frontières européennes au détriment des vies humaines sous l'étendard du prétexte Covid-19. Physiquement, pour éviter d'aborder la question de la France-Afrique et de la décolonisation, les frontières de l'Europe s'étendent bien au-delà de ce qu'on apprend sur les cartes de géographie. Au Niger, notamment, des unités militaires européennes ont leur base dans le désert pour contrôler les flux migratoires. La criminalisation des passeurs dans le désert a eu comme conséquence d'augmenter le nombre de morts tentant de le traverser. Depuis 2016, ne pouvant plus emprunter les routes les plus rapides et les plus connues pour ne pas être arrêtés, les passeurs et voyageuses prennent davantage de risques. Alarmophone Sahara, une organisation en collaboration avec son aîné Alarmophone, agissant plutôt en mer Méditerranée, a été créée depuis pour, entre autres, tenter de secourir les personnes en détresse dans le Sahara. Nombreux sont les exemples qui illustrent que les politiques européennes tuent aux frontières et qu'elles étendent toujours plus loin leurs mesures criminelles et restrictives, poussant les voyageurs et voyageuses à prendre davantage de risques pour leur vie.
En mer Méditerranée. Sous le voile de la crise sanitaire, les autorités européennes mènent des politiques racistes de sécurité aux frontières qui rendent les traversées maritimes encore plus dangereuses et mortelles. En Méditerranée occidentale. Depuis 2 ans, La route entre le Maroc et l'Espagne est très empruntée pour traverser la Méditerranée. L'Union européenne a passé plusieurs accords financiers avec le gouvernement marocain, comme elle a financé les camps en Turquie et en Libye et les gardes-côtes de ces deux pays de départ. Toujours dans l'idée d'externaliser ses frontières, elle a alloué de gros budgets afin de, notamment, renforcer les frontières terrestres entre le Maroc et l'Espagne, les murs de barbelés électrifiés délimitant les enclaves de Melilla, de Ceuta au nord du Maroc. Enfin également de renforcer la détention de personnes en transit, leur refoulement vers le sud pour les éloigner de la zone européenne, la surveillance des côtes marocaines et pour celles qui parviennent quand même à tenter la traversée de la mer, des unités plus nombreuses et plus efficaces de la marine royale pour ramener les voyageurs, eux, à leur point de départ. Et bien que depuis plusieurs années, il soit plus difficile au Maroc d'obtenir un titre de séjour, le pays passant du statut de pays de transit à celui de pays de résidence, nombreuses sont les migrantes qui préfèrent malgré tout poursuivre le voyage vers l'Europe. Malgré les temps de confinement et les fermetures des frontières, beaucoup de personnes ont quitté le Maroc pour rejoindre l'Europe, les zones ou les continents impossibles à traverser. De plus en plus de départs se font de la côte ouest du Maroc, Atlantique, vers les îles Canaries. Plus de 500 000 nautiques, soit environ 1000 km, parcourir, et donc forcément plusieurs jours en mer. Entre janvier et mars 2020, 290 personnes sont mortes suite à des naufrages et le 3 avril, 43 personnes mouraient en tentant de traverser sans obtenir de secours. Malgré que l'indifférence des gouvernements face aux détresses de migrantes en mer soit coutume, entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril, environ 400 personnes sont arrivées aux îles Canaries en partant du Maroc. Certaines secourues à l'arrivée par des sauveteurs espagnols de la Salvamento Marítimo et la plupart par leurs proches moyens, par leurs propres moyens jusqu'au bout. Et un matin, 50 personnes avaient réussi à franchir la clôture de Melilla et à se retrouver du côté espagnol. Pour plus de détails, voir Caminando Fronteras sur Twitter, Migre Europe et Infomigrant. La mer Égée.
La mer Égée, du coup. Après avoir joué son rôle de chien de garde des frontières de l'Union européenne, la Turquie a donc mis à exécution son chantage suprême d'ouvrir ses frontières et laisser déferler une vague de migrantes vers la Grèce. En réalité, beaucoup moins d'entre elles que ce qui a été annoncé, ont réussi à y parvenir et même à quitter la Turquie. La réponse de la Grèce, des États membres et de l'Union européenne a été de mettre très vite en œuvre des mesures illégales et brutales de violation des droits des exilés pour éviter que cette vague ne lèche de trop près les côtes européennes. Début mars, la Grèce suspend l'enregistrement des demandes d'asile pour mieux refouler les personnes qui tenteraient d'entrer par la Turquie. Quelques jours plus tard, plus de 400 exilés arrivés par la mer sont séquestrés à bord d'un navire militaire armé au port de Mytilène, sur l'île grecque de Lesbos, sans qu'aucune décision ne leur ait été notifiée. La Grèce doit par ailleurs démentir dans le même temps l'existence de centres secrets ou extrajudiciaires, entre guillemets, de détention pré-expulsion à sa frontière avec la Turquie. Comble du cynisme, l'Organisation internationale des migrations, OIM, encouragée et financée par l'Union européenne, s'est déplacée pour proposer aux exilés présents à la frontière gréco-turque une aide au retour dit « volontaire ». Entre guillemets. Pour plus d'infos, allez voir sur le site de migreurope.org. Et dès ce moment-là, l'épidémie du Covid-19 devenait le principal sujet de médiatisation et de préoccupation, occultant les autres, telles que les pratiques injustes et criminelles relatives à la protection des frontières européennes, venant même justifier ces pratiques. Et depuis, chaque État de l'Union européenne est focalisé sur sa gestion interne de la crise sanitaire, soutenant ou fermant les yeux. Et même dans ce cas-là, n'est-ce pas un soutien sur les mesures répressives mises en place par ses voisins? Depuis le début de la pandémie, les gardes-côtes grecs ont augmenté les violences face aux embarcations de migrants arrivant sur leur zone. Avant, il n'était déjà pas exclu d'avoir le récit de personnes parlant de violences, d'insultes, de vols, de mise en danger de la part des gardes-côtes grecs et plus souvent turcs. Mais depuis la fermeture des frontières, c'est de pire en pire. L'ONG Aegean Boat Report rapporte que de nouvelles méthodes de refoulement maritime illégaux de réfugiés vers la Turquie sont effectuées par les gardes-côtes grecs avec une procédure spéciale. Une fois repérés à l'endroit où ils ont débarqué, les réfugiés sont placés sur des radeaux de survie qui ressemblent à des tentes flottantes sans moteur et sont tractés jusque dans les eaux turques pour laisser à la dérive, puis laisser à la dérive afin que le courant les emporte vers la côte turque. La liste des conséquences humaines sur la gestion des frontières gréco-turques pourrait continuer, en passant notamment par le nord de Chypre, sous gouvernement turc, où une centaine de réfugiés syriens sont bloqués depuis la fermeture des frontières de l'Union européenne, ayant été refoulés en arrivant au sud de Chypre, partie de l'île appartenant à l'Union européenne. Un petit point Méditerranée centrale.
Donc en Méditerranée centrale. Depuis ce début d'avril, les gouvernements maltais et libyens ont fermé leurs ports, les déclarant comme n'étant plus des ports sûrs, comme l'Italie l'a à nouveau annoncé également. D'un cynisme époustouflant quand on pense que tant d'organisations et de personnes dénoncent depuis plusieurs années que la Libye n'a rien d'un port sûr lorsque des refoulements de personnes secourues en mer vers son territoire sont effectués avec le soutien et ou sous les ordres des pays de l'UE, bien marchands, plutôt que d'être accueillis dans des ports européens. Et donc contre le droit international du sauvetage en mer qui ordonne que tout bateau en détresse en mer soit secouru et ses passagers amenés dans un port sûr. Entre le 5 et le 11 avril, plus de 1000 personnes tentent pourtant de fuir la Libye. Alarmphone a été alerté par 10 bateaux au total, dont 2 ont été secourus par Alan Kurdi le 6 avril. Lorsque le bateau de sauvetage de l'ONG CI arrivait sur zone le 5 avril, Alan Kurdi, c'est un bateau de sauvetage de l'ONG CI, arrivé sur zone le 5 avril. La Libye, c'est pire que le virus Corona, disait un des passagers d'une embarcation en communication avec Alan Fum. Plus de 500 personnes auraient été renvoyées en Libye dans un délai de 3 jours seulement. Certains des survivants nous ont informé que 6 personnes se sont noyées. Un grand nombre de ces personnes ont été emprisonnées sur un bateau dans le port de Tripoli. De plus, le sort de certains bateaux reste incertain. Dans le même temps, nous avons également appris que plusieurs autres bateaux avaient atteint l'Italie de manière autonome, arrivant à Lampedusa, en Sicile, à Linosa et à Partelleria. Communiqué d'Alarmphone le 11 avril. Allez voir sur alarmphone.org. Aujourd'hui donc, les personnes en détresse en mer ne peuvent vraiment attendre du secours d'aucun gouvernement respectant le droit international, ni espérer qu'un port accepte qu'elle touche son sol. Ça paraît con, c'est pas si éloigné de comment ça se passe d'habitude, sauf que là, ça passe. Ce sont même des mesures qui se justifient par l'argument de la protection des populations. Comme si aucune mesure de sauvetage, quand on voit déjà qu'en temps hors corona, les gardes-côtes effectuent des sauvetages avec des combinaisons et des masques de la tête aux pieds. Malgré la crise du Covid-19, l'Europe est toujours en sécurité par rapport à la Libye et dispose des ressources nécessaires pour mener des opérations vitales de recherche et de sauvetage. Alarmphone rapporte le retrait systématique des autorités européennes de la zone centrale de la Méditerranée. Nous avons documenter plusieurs retards scandaleux et même des actes de sabotage en mer, comme le récit de la rencontre avec des gardes-côtes maltais qui ont insulté des passagers d'une embarcation en leur disant que personne n'entrerait à Malte et qui, elle, pourrait bien mourir. Le lundi 13 avril, 4 bateaux différents, avec à bord une cinquantaine de personnes, chacun arrivé et était connu pour être dans une situation de détresse depuis le 9 avril. Appelant et attendant du secours depuis plusieurs jours, en communication avec Alarm Phone. Les centres de coordination et de sauvetage en mer n'étaient ni joignables à Malte, qui était ce dont la responsabilité du sauvetage incombait, ni en Italie, ni en Libye, ou raccrochés au nez de celles qui tentaient de faire respecter le droit de vie des personnes en danger. Alan Kurdi avait déjà atteint son nombre de personnes à bord max, 150. De nombreuses organisations et personnes ont écrit à des membres de gouvernement et des institutions, Commission européenne, pétition contre le Premier ministre maltais. En Italie, en France, en Allemagne et j'en passe. Et pour faire pression, ont beaucoup publié sur les réseaux sociaux et la population s'est mobilisée à propos de cet abandon à la mort de tant de personnes aux portes de l'Europe, avec de nombreuses manifestations aux fenêtres, avec des messages tels que « Sauvez-les ». Est-ce qu'un leader européen aurait le courage d'être en contact direct avec une mère qui appelle à l'aide depuis le milieu de la mer et en grand danger de mort, et de lui dire que sa vie et celle de son enfant ne valent pas la peine d'être sauvées, publié Alarm Phone sur Twitter. Finalement, deux des bateaux auraient rejoint la Sicile par eux-mêmes et Aita Mari, ONG espagnole présente autour de la zone, a fini par recevoir l'autorisation de la part du gouvernement maltais le 13 avril pour effectuer le sauvetage de 47 personnes depuis une troisième embarcation.
Une quatrième embarcation est toujours disparue avec 55 personnes à bord dans la zone de recherche et de secours SAR maltaise. Un hélico a été envoyé le 13 avril, 4 jours après que l'alerte a été lancée. Malte a autorisé le débarquement avec mise en quarantaine des passagers à bord de l'Alta Mare sur son sol et a envoyé un hélico pour transborder 5 personnes qui avaient perdu connaissance. Les réseaux sociaux qui permettaient la visibilisation ont une fois de plus fait leur effet. Autrement, tout ce qui se passe en mer pourrait y rester et n'être que très peu visible pour la plupart des gens. Voilà, j'ai des petites mises à jour sur ces 4 embarcations et autour de ça. Bah, par exemple, les bateaux qui a été secouru par l'Alta Mare avaient déjà été rapprochés pour un cargo portugais dans des houles de 2 mètres. Et les cargos, ils disent qu'il n'avait pas les sauvetages, ça avait été pas été possible. Et du coup, il a une investigation là-dessous, à voir pourquoi. Et imagine-toi que tu es dans des vagues de 2 mètres et tu vois un cargo passer, il s'est barré, tu sais rien de ce qui va se passer. Et en fait, toutes les nouvelles, ben, c'est un peu un bordel de voir qui c'était quel bateau, parce qu'en fait, il a vraiment une clarté. Ça, il n'a pas du tout de clarté sur ce qui est en train de se passer. Par exemple, la ministre italienne Michele dit que ces bateaux, les bateaux vieux de Frontex, parce qu'il avait un avion de Frontex qui avait vu un bateau en train de coller, déjà à moitié dégonflé et tout ça. Elle dit que c'était peut-être les restes d'un sauvetage libyen plus ancien, qui c'est une vraie connerie, parce que la Libye, elle dit que depuis vendredi, ils n'avaient pas fait de sauvetage du tout. Et après, par exemple, les bateaux disparus est maintenant en eau libyenne. Il était dans la zone de Search and Rescue maltais. Il a été trouvé hier après-midi. Il avait 5 morts et 47 survivants. Et ils attendaient de débarquer en Libye, mais la Libye n'a pas de permission pour le moment. Du coup, ils sont sur un bateau de la garde côtière. Et Malte, elle dit de ne rien savoir. Elle disait aussi à la garde côtière italienne, qui a mobilisé pendant toute une nuit un hélicoptère et tout ça pour regarder s'ils n'étaient pas autour de Lampedusa, qu'ils ne savaient rien de tout. Et en fait, ils savaient très bien qu'ils étaient en train d'être ramenés en Libye. On ne sait pas pour quel bateau a fait le sabotage. Voilà, du coup, en fait, c'est un gros bordel, personne ne dit rien. Le gouvernement maltais propose 100 millions d'euros pour donner des aides
alimentaire et médical, mais en Libye, quand la Libye est en train d'être bombardée. Et voilà. Et après, il y a Sea-Watch qui dit qu'il y a autre bateau avec 85 personnes qui est encore disparu. Ça qui est peut-être coulé, en fait. Voilà. Ben, le récit continue. Et on vous invite à les lire quand on arrive à les poster. Et il y a 2 millions d'autres nouvelles. On peut se perdre pendant des heures et des heures sur, à lire toutes les informations. Pas joyeuses. Et,
moi, j'en ai une joyeuse.
Yeah.
Moi, j'ai une information joyeuse. C'est que pendant ce temps-là, le gouvernement français prévoit un plan de sauvetage de l'économie du tourisme.
Ah, cool. Trop bien. Ah oui, mais d'ailleurs, ça me fait marrer aussi parce que tu vois, en fait, c'est dans les discours de beaucoup de gens qui disent bah, on est en pleine épidémie, on va les mettre où tous ces gens si on galère déjà nous dans les hôpitaux. Et en fait, par exemple, tu vois, dans un camp de Grèce, ils ont décidé maintenant de mettre 1000 personnes parce que les camps ont overbooké. Et ils vont les mettre 1000 personnes dans un hôtel. Et en fait, avec tous les hôtels libres qu'il a maintenant, tu vois, par exemple, des petites idées, mais en fait, il y a plein de gens qui disent « Mais on n'a pas la place, il est temps de s'occuper de ça. » Et en fait, bon, voilà, il pourrait avoir 1000 millions de choses qui peuvent se passer. Mais bon, ça, on sait, c'est pas... C'est avant le Covid, c'est pendant le Covid et ouais, tout le temps, quoi. Et je vais finir avec la fin de l'exposé qui dit « Et si tu as envie de participer, de soutenir de manière financière au paquet, allez faire un tour sur ces différents sites d'initiatives ci-dessous et sites d'info ci-dessous. Vous trouvez des informations d'actions à faire depuis chez vous. » Coup de fil dans le centre de rétention, par exemple, à travers des médias sociaux et ou dans la rue. Et des appels à soutien financier pour aider les personnes qui ne peuvent plus se débrouiller comme elles le faisaient à cause du confinement. À faire tourner des idées des médias, Migre Europe, Courrier des Balkans, Info Migrante, Al Jazeera, abalekra.noblog.org. Paris Lutte Info, Marseille Info Autonome et Open Democracy. Voilà.
Merci. Du coup, on rappelle qu'on peut avoir l'entièreté de l'exposé sur le blog de la radio 399fm.noblogs.org prochainement. Pas tout de suite, tout de suite. Mais peut-être dès demain, quoi. Ouais. Et en attendant, il y a les podcasts de ces émissions.
Ouais.